Interview.
2 jours.
Vous écoutez RDWA et merci bien sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de David Botin et Emilien. Salut à tous les deux.
Salut à tous.
Salut.
Alors, Emilien, on te connaît ici pour le Tarabourla, mais en fait, t'es aussi un ouvrier de David.
Je suis aussi l'ouvrier de David Botin, exactement.
Ouais, annualisé, tout ça.
Pas du tout.
Ah non, pas du tout. T'es encore un saisonnier maltraité.
Ouais, je fais des thésas et j'enchaîne des petits contrats précaires. Et en fait, ça me plaît.
Ah ouais, ça te plaît.
Ça me convient parfaitement.
C'est au top, ça.
Un vrai équilibriste.
David, tu es là. On va parler un petit peu de ton activité avant de parler de ce pourquoi vous êtes venus tous les deux. Notamment, c'était les Espieglory ce week-end.
Oui.
Il paraît que tu fais partie de ceux qui ont tellement cartonné qu'ils ont été obligés de se réapprovisionner en cours de journée. C'est vrai, ça?
Pas tout à fait, mais
si, c'est
ça...
vrai. Si, si, complètement. Il a été obligé de chercher. Il y a un deuxième poids lourd qui est arrivé pour nous livrer voilà. 2 palettes en plein milieu. C'était la merde.
Mais faut pas le dire en fait. Hein. Le semi-remorque, personne l'a vu.
Dans les rues de Die.
Ouais.
Non, mais c'est bien. Ça, t'as bien vendu.
Ouais, ça a très bien marché. Ouais. Super journée.
Tu as combien de surface, David?
J'ai 35 hectares. Non, c'est pas vrai. J'ai 5 hectares et demi de vignes.
Et tout se passait en bio, là, récemment?
Ouais, passé en bio, tout en bio depuis 2011, en fait. Donc,
voilà, c'est la période de reconversion. Et là, maintenant, il y a un label qui a été, voilà. été labellisé, ça y est.
On est labellisé depuis la récolte 2014.
Yes. Et alors, ça fait quoi de passer en bio, par exemple, pour avoir fait les deux?
Eh ben, c'est génial. Ouais, c'est vachement valorisant. Je travaille avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de conviction.
Qu'est-ce qui t'a motivé?
Qu'est-ce qui m'a motivé? D'arrêter de polluer, d'utiliser des produits chimiques que je ne supportais plus physiquement déjà.
Par exemple, qu'est-ce qui se passait?
Dans les traitements en produits chimiques, j'avais des sales goûts dans la bouche qui me revenaient après les traitements.
Ouais.
Voilà, c'est le truc fort désagréable. Plus tout ce qu'on sait sur les produits chimiques et les effets secondaires, et voilà, les cancers et compagnie. Bon, j'ai plus du tout envie d'utiliser ce genre de produit. Et du coup, je ne fais plus confiance non plus aux marchands de produits, quoi que ce soit, engrais. Voilà, je préfère travailler par moi-même en fait. Je suis très indépendant. J'aime savoir ce que je fais pour moi. Donc je me forme déjà, je me forme chaque année sur la vie du sol, sur le fonctionnement d'un sol, un peu me réapproprier ce savoir que les gens avaient autrefois mais qu'on a perdu après la Deuxième Guerre mondiale on va dire, et l'arrivée des produits chimiques. Donc aujourd'hui je réutilise du compost que je prends dans la vallée de Quin chez David Toussaint, du compost de vache, et je fais un travail sur un peu toutes les parcelles.
En plantant, notamment des graminées à l'intérieur.
Ça, pas encore, non, parce que j'ai pas assez de savoir sur les enherbements. Mais voilà, je me forme chaque année. J'y vais petit à petit à ma vitesse.
Ben, c'est bien.
Voilà, mais en tout cas, c'est très valorisant de retravailler comme ça. On revoit les vers de terre arriver et c'est très chouette. Voilà, redonner vie au sol, redonner vie à la vigne, à la plante, qu'elle redevienne autonome, qu'elle se nourrisse par les éléments naturels, donc moins d'engrais. Et voilà.
Et cette vigne, tu l'avais repris
Ouais, de mon père.
Voilà, et donc elle a vécu les deux périodes, on va dire.
Ouais.
Est-ce que ça a été compliqué pour elle? Est-ce qu'il y a une période d'acclimatation?
Je pense qu'il y a une période d'acclimatation, ouais, parce qu'on a enlevé la perfusion.
C'est ça.
Donc il faut qu'elle se réadapte à cette nouvelle façon de travailler. Mais ça va, quoi. On a des petites baisses de rendement, mais. Qu'on assume, quoi, ça va. On ne cherche pas à arriver au taquet. Voilà. Que dire.
Et ton père, lui, qui a vécu justement toute cette période chargée d'engrais, ça va
Il n'est plus là, mon père.
Ouais, il n'est plus là, mais ouais. Est-ce que justement il a été touché par ces trucs-là? Ça a pu être prouvé que par exemple, trop de chimique l'a abîmé. J'ai eu comme ça dans d'autres. Émissions, des témoignages de ce genre, ça a été le cas pour lui ou on ne sait pas?
J'en sais rien, mais bon, mon père est mort d'un cancer, quoi.
Et ouais, ça peut être en corrélation.
Voilà, ça peut être en corrélation. Mais bon, c'était, ils ont travaillé 40 ou 50 ans avec ce système-là, donc pour eux, c'était difficile de passer à autre chose, parce que par peur de que ça ne marche pas, de baisse de rendement, de ci, de ça. Mais voilà, le fait de repasser en bio, moi, je trouve ça génial. C'est... voilà, j'ai pas assez préparé le truc là, mais
non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Soucis, c'est cool. C'est très bonne réponse. Ouais. C'est exactement ce que je voulais.
Je trouve ça génial, quoi. C'est...
Tiens, Émilien, on va passer à l'ouvrier. Toi, si tu as travaillé dans les vignes, c'est parce qu'elles sont en bio, parce que tu avais cette expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te touche?
Eh bien, moi, je travaille dans la vigne. À la base, je suis arrivé ici pour vendanger, comme beaucoup de jeunes. J'ai rencontré David, ça s'est très bien passé. Il m'a proposé de bosser avec lui et la vigne, c'était pas mon kiff à la base. J'ai une formation plus environnementaliste, on va dire. Et j'aurais pas travaillé avec lui s'il avait été en conventionnel. Et je travaille avec lui parce qu'on s'entend bien et qu'on... aussi parce qu'on est en bio. Oui, travailler la vigne en conventionnel, ça me branche pas plus que ça.
On entend de plus en plus de saisonniers justement qui cherchent et qui disent « Ah ben si, c'est pas en bio, moi je m'y permets maintenant. »
C'est ce que je faisais avant. Quand j'étais saisonnier dans d'autres structures, quoi. J'essayais de prioriser le bio, quoi. Voilà.
Donc c'est quelque chose qui est quand même d'importance. De plus en plus, pour revenir sur les espiègleries, bah, y a de plus en plus de stands qui l'affichent, cette labellisation. Mmh. C'est bien, ça veut dire que la vallée n'est pas que bio-vallée dans les textes, mais aussi dans les cœurs.
Ouais. Bah, il faut encore que pas mal de vignerons qui passent en bio, parce que je pense que c'est important. Il y a un travail à faire.
Ouais, là, t'as encore des voisins qui... Bon, bah...
Ouais. Mais bon, faut y aller doucement, il faut... Je pense que c'est 50 ans d'éducation à revoir aussi.
Et à l'échelle d'un village comme Barsac, comment t'es perçu? Est-ce que tu es le hippie du coin, le fou, ou est-ce que justement c'est un discours qui commence à être...
Non, mais justement, Barsac, c'est un village où il y a 160 habitants, 8 caves encore. Donc on a tous grandi ensemble, on est tous copains, on s'entend très bien. On arrive quand même à échanger. Et je pense qu'il faut continuer à échanger pour faire évoluer les mentalités. Mm-hmm. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais il faut continuer à garder le contact et pouvoir parler avec ses voisins, parce qu'ils voient quand même que ça marche. Donc,
et oui, la preuve par l'exemple.
Ben c'est ça. Donc, ouais. Je pense qu'il faudra peut-être une génération de plus, mais à force, on va y arriver.
Tu voulais rajouter un truc?
Oui, je voulais dire qu'il y avait déjà un vigneron qui fait sa clairette en bio dans Barsac, en plus de nous. Et un viticulteur aussi qui est en agriculture biologique. Enfin voilà, du coup, ça, on est pas tout seul.
Parlons un peu de vinification, parce que alors, quand on a un producteur indépendant, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tu as ta cave, tu fais tes pressions, tes mises en bouteille, tout ça. Alors là, c'est livré ou c'est la clairette de la nouvelle année, c'est pour maintenant?
Et non, c'est pas encore. Elle est encore en prise de mousse.
Okay.
Ça a été mis en bouteille début février. Il y a 4 mois de prise de mousse, donc elles vont tirer en juin. Voilà, courant juin, la récolte 2015.
Toi, tu vends toute ta récolte en une année, à chaque fois?
À peu près, ouais.
Ouais. Donc, on boit toujours la clairette de l'année, quasiment, à partir de l'été. Bah,
là, on est encore sur la 2014, et 2015 arrive mi-juin.
Juin-juillet,
Juin-juillet.
Allez, on veut une petite description du travail une fois que le raisin est tombé du palox dans la cuve.
Donc nous d'abord c'est pas des palox, c'est des remorques en inox. Donc
ah oui, c'est ça, toi t'es proche, ce qu'on appelle du vrac.
Voilà. Ouais. Et donc c'est ramassé à la main avec une bonne équipe de vendangeurs. Formidable. Qu'on remercie d'ailleurs. Donc on ramasse à la main, on est 8 vendangeurs. Donc c'est pressé en direct. Clarifier en cuve à basse température et ensuite fermentation alcoolique, fermentation lente à très basse température jusqu'au mois de janvier-février où on met ce jus en bouteille pour la méthode ancestrale en milieu de fermentation.
Là, elle est encapsulée et là, elle re-attend un moment.
Encapsulée et elle repart naturellement en fermentation dans la bouteille pour la prise de mousse.
Et là, normalement, il faut la tourner, cette bouteille.
Non, ça, c'est plutôt la méthode champenoise.
Ah, d'accord.
Ou traditionnelle ici.
Ouais.
Et donc, nous, les bouteilles sont refermentes 4 mois. Et après la prise de mousse, elles sont refiltrées. Elles sont refiltrées. Donc là, moi, je ne fais pas cette opération parce que je n'ai pas le matériel. Donc, je fais faire ça par une cave à Verchenil, la cave Mange-Granon. Je leur amène les bouteilles en capsule, ils me les filtrent et je les récupère bouchées au liège, prêtes à être étiquetées.
Et là, tu as ton étiqueteuse.
Ouais, j'ai une petite étiqueteuse. Ça on fait bouteille par bouteille.
Ça fait combien de bouteilles par an
ça fait 30-40 000 bouteilles.
Ah ouais, ouais, voilà. Ouais quand même.
On est limité à 60 hectos à l'hectare. On y arrive rarement.
Ouais, on est entre 38 000, ouais. 40, 42.
Voilà, ça dépend des années. On ne cherche pas à trop taquer au niveau rendement. Voilà, c'est... on fait 50 hectos hectare, 55 suivant les années.
La période un peu tendue, on va dire, où l'œnologue, on va dire, doit surveiller son produit, c'est quand et c'est pour quelle raison ?
Eh ben, c'est de septembre à décembre déjà. Il faut surveiller les fermentations en cuve, que ça se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'arrêt de fermentation, que ça aille pas trop vite, ça fermente doucement. Donc on déguste régulièrement pour voir l'évolution des jus, comment ils se transforment doucement en vin, on va dire. Et ensuite, on pèse la densité pour voir la vitesse de fermentation. Donc là, c'est pas mal de surveillance jusqu'au mois de décembre, janvier où on met en bouteille.
Et les particularités de toutes les clairettes qu'on a, là, il y a un paquet de producteurs indépendants, dont la tienne, même différentes clairettes que tu es capable d'élaborer. Pourquoi est-ce qu'elles ont toutes un goût différent ? Est-ce que c'est vraiment une question de terroir ? Est-ce que derrière, il y a une petite recette perso ?
Il y a un peu tout qui rentre en vigueur. Il y a l'exposition du terrain, il y a le terroir, il y a la façon de travailler la vigne, il y a l'assemblage muscat et clairette aussi, et puis la cave aussi. La cave a une influence parce qu'il y a des odeurs dans les caves, les palettes. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait que toutes les clairettes sont différentes.
Et la tienne, c'est quoi son goût ?
Ben, c'est le mien. On dit que le vin ressemble au vigneron. Mais en fait, en tout cas,
il est un peu rock'n'roll.
Il est un peu rock'n'roll, bien sûr, forcément. Non, mais c'est moi, je tiens à faire des vins de vigneron avec bien la pâte du vigneron. Je veux pas faire. Je suis contre l'uniformisation des goûts.
Un truc qui représente ton terroir, le millésime, voilà. L'année en tout cas de récolte. Quoi.
Voilà, chaque année, il est différent parce que le climat était différent, parce que la maturité n'est pas la même. Parce que l'assemblage muscat clairette n'est pas le même.
Oui, ça.
J'aime bien respecter le climat qu'il a fait dans l'année. Et je fais pas des vins qui sont toujours les mêmes. Voilà.
Comment on fait un vin toujours le même ? C'est-à-dire
je sais pas, en faisant des assemblages.
Ouais, en respectant toujours la même densité, le même assemblage, en faisant appel à de la technique dans le vin.
C'est ça.
Des produits Ono, des activateurs de croissance ou de levure, des activations de fermentation, des choses comme ça.
Levure ou sirop que tu fais sur les années où c'est des bonnes années, etc. Et
il n'y a pas de sirop dans la tradition. Hein.
Non, mais ça peut être sur le brut.
Ou voilà, sur le brut. Sur le brut.
Ouais, sur le brut, ouais.
Ok, et donc là, on peut avoir oui, une année à 70-30 comme une année à 80-20.
Ouais, nous, on fait en général, on met très peu de clairettes dans la tradition parce que j'ai peu de clairettes. Donc en général, c'est 95 muscats et 5 clairettes. Ça peut varier jusqu'à 10% de clairettes.
Et le reste, tu le gardes pour une brute ?
Pour une brute, ouais, 100% clairette.
Et là, c'est combien de bouteilles, là, 100% clairette ?
Ouais, c'est 3000 bouteilles, c'est petit volume.
C'est de l'exclusif.
Ouais.
Toi, Emilien, tu travailles aussi dans la cave, en plus des heures de vigne ?
Alors, moi, j'ai pas de formation en vigny, je sais pas comment on appelle ça, dans le pinard, quoi. Mais voilà, j'apprends sur le tas avec David, et ouais, je bosse dans la cave, tout ce qui est... Ouais, surveillance du pinard,
Tu goûtes,
dégustation, tous les lundis matin, ouais, je me lave pas les dents le lundi matin pour pouvoir déguster toutes les cuves, parce que sinon t'as un goût de dentifrice, c'est juste nul. Et puis voilà, ouais, y a tout ce qui est, ouais, y a quand même pas mal de travaux, de mise et tout ça, quoi.
Tous les lundis matin, vous allez têter le produit.
C'est ça.
Ça, c'est excellent. Alors bon, au début, c'est un petit jus de, jus de raisin.
Et à la fin, ça évolue, c'est super dur. En plus, moi, je suis pas un œnologue, quoi. Mais bon, tu retrouves des trucs. Le fameux goût du bonbon harlequin, et ben quand tu l'as au début, ce petit goût de banane, tu fais faut pas trop que ça évolue. Et puis quand ça évolue, ça peut aller vers de la réduction. Donc t'as ton vin, si ça. Et au fur et à mesure, t'apprends des trucs comme ça, quoi.
L'appellation AOC Clairette Dody et puis Crément Dody. Alors je sais pas si le brut, dans quelle catégorie rentre le brut, est fixé, il me semble, à un certain degré d'alcool maximum. Comment est-ce que t'arrives à bloquer ton degré d'alcool ? Est-ce que c'est en arrêtant comme ça tout d'un coup la fermentation ? Et à combien est-ce que vous sortez ? Est-ce que ça aussi, ça change d'année en année ?
Non, bah, le taux d'alcool, je crois qu'il est limité à 12,5 pour le ramassage des raisins. On ne peut pas ramasser des raisins à plus de 12,5. De toute façon, pour la méthode ancestrale, C'est un taux de sucre à pas dépasser aussi.
Ouais.
Mais de toute façon, ça fait des vins finis, pas élevés en alcool. Hein.
Ouais, 8,5,
9, quoi, que tu en général, quoi.
Mais ouais, tu... en gros, quand ton mou est en fermentation, que tu prends ta densité tous les lundis matin, et ben, au bout d'un moment, tu vas avoir ta densité qui baisse. Et plus elle baisse, plus ton vin va être alcoolisé. Donc, toi, tu... on va dire 1030, quoi, j'ai plus l'idée, mais voilà, 1030, 1028, 1029, selon ce que tu fais là. Tu vas te retrouver avec un vin plus ou moins alcoolisé et c'est comme ça que tu arrives à avoir beaucoup de sucre dans ta bouteille et peu d'alcool. Si tu laisses ton vin aller jusqu'au bout, tu auras un vin blanc fini, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
Voilà.
Et donc là, c'est quoi la norme David Bottin en ouais, alcool dépend, sorti, fini.
Ça dépend des années, de la maturité ouais, du raisin, de l'équilibre sucre-acidité. Mais en général, on fait des clairettes qui ne sont pas trop douces, quoi. On aime bien... des vins plus sur le fruit que sur le sucre. Mais il faut jauger justement l'équilibre sucre-acidité pour avoir un développement aromatique sympa avec un peu de sucre et pas trop. Voilà. Mais c'est un peu au feeling. Moi, il n'y a rien de précis dans mon travail. Je ne suis pas œnologue non plus. J'aime bien travailler au feeling. Voilà, au ressenti, à la dégustation. Voilà. Donc on est quand même suivi par des œnologues pour avoir des analyses de vin pour avoir l'équilibre au niveau de la maturité. Mais après, on travaille beaucoup au feeling, quoi.
Et justement, ces œnologues, ils sont pas, ça va, pas étonnés du non. résultat.
Non.
Tu vois, on pourrait dire, bah, puisque c'est vraiment fait en amateur.
Non. On arrive à sortir des bonnes clairettes.
Ouais, et puis ils nous connaissent, ils savent comment on travaille. Et... Mm. Voilà.
David Bottin, Emilien, tous les deux sur RDIWA, pour aussi évoquer un événement. Alors, David, t'es sacrément habitué à créer tout au long de l'année, j'ai envie de dire, des petits événements pour qu'on passe chez toi. Vous êtes tous les deux aussi membres du Tarabourla qui active beaucoup de festivités sur le village de Barsac. Une désormais traditionnelle porte ouverte le 14 mai.
C'est ça, la 10e.
Voilà, donc c'est bien traditionnel.
Ouais, 10 cool. ans de la porte ouverte.
Du marché de producteurs à ouais. la ferme, quoi.
Allez, bah, décrivez-nous cet événement alors. Ouais. Marché de producteurs.
Donc, ouais, 10e année. Donc, on refait la porte ouverte. On a changé de date cette année. On a fait ça 3 semaines plus tôt, donc le 14 mai. Et donc, bah, on organise à peu près comme d'habitude une petite balade dans les vignes le matin à 10h, histoire de se détendre. Avec un repas le midi, concocté par Jean-Marie Blachon.
Donc, il faut réserver.
Il faut réserver, bien sûr, le repas du midi, le repas du soir. Donc, à midi, on aura une gardienne de bœuf locale. Voilà, ensuite un spectacle à 16h avec Tarte à Gomme.
Fameux
Tarte à Gomme.
Ouais. Spectacle de clown.
Ouais. Le marché de producteurs à 17h.
Alors là, tu fais venir qui ?
Eh ben, que des producteurs locaux.
Amis ou c'est ouvert à tout le monde ?
C'est ouvert à tout le monde, mais bon, on a un noyau qui revient chaque année, là, ouais. qui est très sympa. Les gens du coin.
Ah, par exemple, on a quoi ?
On a Dany avec ses confitures.
Ouais, Dany et les confitures. On a
ton collègue aussi, Rémi, là, qui vient avec des huiles essentielles, des hydrolats, des choses comme ça. Mmh. Christelle avec ses glaces. Ces glaces qui sont faites à Saint-Sornin, là. Mmh. Il y a qui encore ? Il y a un petit gars qui fait de la spiruline, là, ou une nana, je sais plus.
Ouais, de Saillant.
De Saillant.
Le vinaigre.
Voilà.
Le vinaigre de Lozeron.
Encore, là. Vinaigre et puis produits dérivés du vinaigre de Lozon.
Ouais.
D'ailleurs, c'est des muscades chez David Bottin.
Ouais.
Excellent.
Pour son vinaigre balsamique, peut-être pas ouais. sous ses vinaigres.
Vinaigre voilà. balsamique, ouais.
Pardon, tiens, ça, aparté, ça veut dire que c'est des... pour du vinaigre balsamique, donc fait dans la Drôme, excellent. C'est des muscades que tu laisses plus longtemps, du coup, sur...
Lui récupère le jus et il les travaille pour en faire des vinaigres.
Il n'est pas forcément plus longtemps sur pied, par exemple, ce qui permet d'avoir un taux de sucre.
Il vient chercher des jus, donc les muscades qui sont ramassées à maturité, et ensuite il les fait réduire, il les fait chauffer. Après, je ne connais pas les recettes.
Hein, ouais.
En tout cas, il fait un vinaigre balsamique selon la recette traditionnelle. Donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en tonneau. Il change de tonneau avec des bois différents pour arriver à un côté aromatique qui lui correspond. Quoi.
Et lui, il vient recherche. Te prendre des jus donc, dans la cave, alors tu as déjà donc, pressé.
C'est ça.
Ouais. Il ne fait pas une sélection sur grappe ou sur vigne. On a presque tout dit sur ces producteurs.
Ouais, il y a encore d'autres producteurs, mais je zappe un peu, je vous avoue. Là.
Il y a Véronique Amantel aussi qui vient.
Voilà, on a eu des brasseurs locaux, on a eu des maraîchers, je ne sais plus exactement qui vient cette année. Quoi.
Il y a Tonio qui vient avec ses jus.
Avec ses jus, voilà, ok. Voilà, voilà. Tonio que vous pouvez voir sur le marché cet été à 10, quoi, avec des jus frais.
Et après ce marché producteur...
Et après ce marché de producteurs, il y a une soirée exceptionnelle.
Waouh.
Un petit couscous concocté par Delphine. Delphine Poron. Et un concert de musique du monde avec Safina.
Que t'es allé chercher où ?
Safina, c'est Saïd qui m'a refilé le plan. Donc, c'est un melting pot de musiciens, de Montélimar, de Cré. Ils font de la musique... dont on peut pas nommer vraiment, mais de l'Inde à l'Afrique du Nord, quoi. Voilà, c'est un voyage fusion. Musical, genre, voilà.
Ça va être intéressant, ça aussi. Ouais.
Donc j'ai voulu proposer une soirée un peu hors frontières.
Et hors du rock and roll aussi.
Il y en a marre des frontières.
Ouais, bah c'est bien. Ah, cadre. Petit message. Je vais essayer de trouver un morceau de ce groupe pour illustrer. Hein,
ouais.
Ça finit. Ouais.
Ouais.
Ça va. Je pense que ça va être une chouette soirée.
D'organiser des événements comme ça.
Et ben moi c'est d'abord un peu de communication autour de la cave, ouvrir les portes aux gens pour qu'ils voient un peu mieux comment on fait la clairette, comment on travaille, et puis leur proposer des choses différentes. Voilà, j'aime bien mélanger les gens aussi. Ça c'est vraiment l'idée principale de la porte ouverte, c'est d'avoir des gens de complètement différents, si je peux dire, et leur proposer des choses qui me plaisent à moi, voilà, pour ouvrir l'esprit, pour voilà.
Ton réseau de... Pardon, Emilien.
Non, je disais qu'on a oublié de parler de l'artiste qui vient exposer aussi.
Ouais, il y a aussi Mathieu Tyson, qui est peintre à Cré, qui fait de la... Ouais, je sais pas trop comment décrire ça, c'est...
Faut venir voir.
Voilà.
Oui, donc c'est ça que tu disais, ouvrir, c'était que on a à la fois un concert, on a un spectacle de clowns pour enfants et adultes heureux d'être encore des enfants, on a une exposition, on mange, on se promène, voilà, on fait tout un tas de choses que d'habitude, dans sa vigne, on s'attend pas à ce que ce soit fait. On pense que vous êtes là en train de travailler, même le dimanche. Oh là là.
Jamais le dimanche.
Bon, ça va. Vous faites partie des rares, alors, qui sortent pas le tracteur le dimanche. Est-ce que tu connais ton réseau de vente, précisément ? Est-ce qu'il est local et donc avec beaucoup de gens qui reviennent participer à ces événements pour ça ? Ou ça va aussi plus loin et...
Bon, ça va plus loin parce qu'on essaye de communiquer sur toute la France. Cette année, j'ai arrêté d'envoyer le courrier. Donc, j'ai communiqué par des flyers que j'ai distribués toute l'année sur tous les salons que je fais en France. Donc, j'ai des gens qui viennent de partout. Il y a des Normands qui viennent cette année, que j'ai rencontrés sur le salon de Rouen. Donc c'est chouette.
Voilà. Et puis communication par mail aussi pour changer de ce courrier qui est quand même relativement cher.
Voilà.
Donc ce sera une découverte pour nous parce qu'il y a quand même pas mal d'anciens qui sont encore qui aiment bien avoir du courrier papier ainsi de suite. Enfin ça va changer un peu. On va s'adapter avec ça quoi. On va voir comment ça fonctionne. Et...
Nouvelle com quoi.
Ouais, c'est ça. On va changer un petit peu. Du coup c'est une année un peu charnière parce que du coup on change la date, on change la façon de communiquer. On ne sait pas trop ce que ça va donner.
Il y a aussi les soupes. Qui se passe aussi chez toi, il y en aura encore ?
Bah, je sais pas, y en a, ça fait 2-3 ans qu'il n'y en a plus. Là.
Ah ouais, ouais. Bah, avec ces événements-là, les événements que David fait tout seul dans sa cave, parce qu'il a aussi sa cave perso avec The Intelligence il n'y a pas longtemps, ou Deus Ex Machina, des choses comme ça. Le réparateur et autres. Le Tarabourla avec nos quelques événements dans l'année quand même, ça fait beaucoup. La soupe du berger encore au milieu, on verra.
Ouais.
On verra si on arrive à la caler un jour, c'était chouette ça aussi.
Ouais,
c'était bien.
Ouais. Ouais, faut retourner dans la vigne un peu les gars quoi. Bah, c'est oui, pas des organisateurs d'événements quoi.
C'est ça.
Allez ben donc rendez-vous pour le 14 mai. Tu disais à partir de 10h à Barsac sur ta cave.
Ouais.
Pour cette journée porte ouverte. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? T'as un site internet ?
J'ai un site internet.
Ouais. Allez, citons-le.
www.cavebotin.com.
Facile.
Et une page Facebook aussi.
Ouais.
Voilà, donc si vous voulez réserver les repas, il y a une adresse mail, c'est porteouverte.botin@gmail.com. Il y a encore plein de places, vous pouvez y aller. Donc repas du midi, repas du soir et la balade dans les vignes sur réservation aussi.
Il y a un prix ?
C'est 17 euros le repas de midi et 15 euros le repas du soir. Voilà.
On a tout dit ?
Ben, je crois,
ouais. Ouais, entrée libre.
Près, ouais. Entrée libre, sinon ceux qui veulent venir comme ça, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci.
Et toute sortie est définitive parce que une fois que tu es rentré, tu vas rester accroché. Donc...
toute patte sortie, quoi. En fait.
Ouais, voilà, toute patte sortie. Quoi.
Merci David, merci Emilien. À la prochaine
merci à vous.
Sur cette antenne.
Merci à vous, Radio Diwa.
Ciao.
Ciao, ciao.
Interview. Ok, le beurre. L'interview du jour.